السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ce soir nous continuons en demandant l'aide d'Allah تبارك وتعالى la lecture du commentaire du noble Sheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, du livre « Les 40 hadiths d'An-Nawawi » ainsi que les 8 hadiths qu'a ajouté l'érudit Ibn Rajab à ces 40 ou 42 hadiths afin de compléter le nombre de 50. Et nous arrivons aujourd'hui au 5e hadith qui compte parmi les hadiths très importants, qui contient une règle importante de notre religion. C'est le hadith de la mère des croyants, Umm Abdillah, Aisha, radiyallahu anha.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ila yawmiddin. Amma ba'd. An ummi al-mu'minin, ummi Abdillahi Aisha, radiyallahu anha, qalat: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. La mère des croyants, Umm Abdillah, Aisha, رضي الله عنها, rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie le verra rejeté, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et sous une formulation rapportée uniquement par Muslim, quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion verra son acte rejeté. Parmi les enseignements du hadith, le premier, ce hadith est un principe fondamental qui permet de déterminer la validité des actes extérieurs. Ces actes ne sont considérés que s'ils sont conformes à la législation. Dans la même optique, le hadith,
la législation donc à comprendre par le terme législation, donc la religion.
Dans la même optique,
la loi religieuse.
Dans la même optique, le hadith, les actes ne valent que par leur intention, est un principe fondamental concernant les œuvres intérieures. Ainsi, tout acte visant l'agrément d'Allah doit lui être exclusivement voué, puisque la valeur de cet acte sera fonction de l'intention pour laquelle il a été accompli.
Na'am. Donc ici, le Cheikh Abd al-Muhsin, hafidhahullah ta'ala, a commencé son commentaire de ce hadith de la mère des croyants, Umm Abdillah, Aisha, radiyallahu anha, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie, le verra rejeté. Ce hadith qui a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique respectif, et sous une formulation rapportée uniquement, recueillie uniquement par Muslim: quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion verra son acte rejeté. Et nous allons voir l'intérêt qu'il y a à ce que An-Nawawi ait fait mention de cette seconde formulation ici dans son livre intitulé Les 40 hadiths d'An-Nawawi. Dans le commentaire donc, nous retrouvons que le Cheikh Abd al-Muhsin hafidhahullah a mis en évidence le fait que ce hadith est un principe fondamental qui permet de déterminer la validité des actes extérieurs, c'est-à-dire ce qui est apparent des actes, les actes sous leur aspect apparent. Et ces actes ne sont considérés que s'ils sont conformes à la législation avec laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu. Par révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans la même optique que le hadith, les actes ne valent que par les intentions. C'est le hadith qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab et que nous avons vu précédemment. C'est même le premier hadith qui a été recensé par An-Nawawi dans son livre Les 40 hadiths, est un principe fondamental concernant les œuvres intérieures, c'est-à-dire l'aspect intérieur des œuvres. C'est ainsi que tu peux connaître la valeur des actes. C'est pour ça que les savants disent, les ulama disent, que le hadith de Omar concernant l'intention constitue la balance de l'aspect intérieur des œuvres. Tandis que le hadith de Aïcha que nous sommes en train d'aborder constitue la balance de l'aspect extérieur, de l'aspect apparent des œuvres. Le shira continue en disant « Ainsi, tout acte visant l'agrément d'Allah doit lui être exclusivement voué. Puisque la valeur de cet acte sera fonction de l'intention pour laquelle il a été accompli. » Ici, le traducteur a choisi de mettre en évidence une relation de cause à effet entre la parole « Ainsi, tout acte visant l'agrément d'Allah doit lui être exclusivement voué. » Et la suite, lorsqu'il a dit « Puisque la valeur de cet acte sera fonction de l'intention pour laquelle il a été accompli. » Pour ma part, cette relation de cause à effet n'apparaît pas dans les propos du Shir Abdel Mohsin. C'est pour ça que je dirais plutôt, après donc, « Ainsi, tout acte visant l'agrément d'Allah doit lui être exclusivement voué. » Et c'est l'intention pour laquelle il a été accompli qui doit être prise en compte afin de déterminer la valeur de cet acte. Au lieu de « puisque la valeur de cet acte sera fonction de l'intention pour laquelle il a été accompli », je dirais plutôt « et c'est l'intention pour laquelle il a été accompli qui doit être prise en compte afin de déterminer la valeur de cet acte ». Et de cette manière-là, le Shir Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala, exclut le fait que ce soit tout autre élément qui vienne déterminer la valeur de l'acte. La valeur de l'aspect intérieur de l'acte, en affirmant que c'est en fonction de l'intention que cette valeur est déterminée. Donc on retrouve ici que le Shir a récapitulé deux principes fondamentaux. Le premier, qui est contenu justement dans ce hadith, le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, selon laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie le verra rejeté. » Et dans la formulation rapportée uniquement par muslim, « Quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion verra son acte rejeté. » Naam. Et le second principe que nous retrouvons, dans le hadith de Omar, les actes ne valent que par les intentions, qui contient un principe fondamental concernant l'aspect intérieur des œuvres. Et tout cela, en réalité, si nous méditons quelque peu, ce que nous venons de mentionner nous renvoie aux deux conditions de l'acceptation des œuvres, à savoir la sincérité vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui consiste à rechercher uniquement l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala par nos œuvres, ainsi que sa récompense dans l'au-delà. Quant à la deuxième condition, c'est la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux conditions-là nous renvoient à la double attestation de foi qui constitue le premier des piliers de l'islam, à savoir le fait d'attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il est peut-être opportun ici de revenir à une parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal que nous avons déjà abordée. Je vous renvoie donc à la page 7 de cette édition, Na'am, dans laquelle le Shir Abdel Mohsin a fait mention des propos de l'imam Ahmed, dans lequel il dit l'ensemble de la religion, Na'am, d'Ibn Rajab, barakallahu fik, qui a dit dans le même sens que les propos de l'imam Ahmed, dans son livre, donc Ibn Rajab, il a dit cela dans son livre Jami'a, Al-Ulum et Al-Hikam, qui est un commentaire du livre que nous sommes en train d'étudier, c'est même le commentaire référence, il a dit donc, dans le même sens que les propos de l'imam Ahmed qui ont déjà été mentionnés précédemment, l'ensemble de la religion consiste à accomplir les commandements, délaisser les interdits et s'abstenir des ambiguïtés. Tout cela est contenu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. C'est le prochain hadith que nous allons aborder, Inch'Allah. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers deux choses. Donc ce qui a précédé, et qui est contenu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, à savoir l'accomplissement des commandements, le délassement des interdits, et le fait de s'abstenir des ambiguïtés, Na'am ne peut se réaliser qu'à travers deux choses. La première, que l'acte soit en apparence conforme à la sunna, comme cela est indiqué dans le hadith de Aïcha, que nous sommes en train d'étudier, c'est le cinquième hadith, recensé par Nawawi dans son livre. La deuxième, qu'intérieurement, on vise à travers l'acte la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est indiqué dans le hadith de Omar, les actes ne valent que par les intentions. Donc, cette parole-là que nous avions déjà abordée et que nous remettons en mémoire à l'instant, met en évidence justement les enseignements apportés par le Cheikh Abdel Mohsin dans ce premier point composant son commentaire du hadith de Aïcha, radiyallahu anha.
Deuxième enseignement, si des actes d'adoration comme les ablutions, le lavage suite à une impureté majeure, pour l'accomplissement de la prière ou autre, si ces actes sont accomplis non conformément à la législation, ils seront rejetés à celui qui les a accomplis, et ils ne seront pas considérés. De la même manière que le bien acquis par un acte de vente illégal doit être rendu à son propriétaire et n'est pas la propriété de l'acheteur. Cela est indiqué dans le récit du prisonnier au père duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Pour ce qui est de la servante et du bétail, ils te seront rendus » rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Ici donc, dans le récit du prisonnier au père duquel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le terme ici qui est utilisé et qui a été traduit ici par prisonnier, c'est le terme « asif » avec un « ayn » suivi d'un « sin » d'un ya et d'un fa. Qui signifie, comme l'a entre autres expliqué Ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari, al-ajir, c'est-à-dire l'ouvrier. Et il a également expliqué que ce terme-là, c'est-à-dire le terme asif, peut avoir le sens de domestique, comme il peut avoir le sens d'esclave, comme il peut avoir le sens de quelqu'un qui demande quelque chose. Donc il a plusieurs sens. Mais parmi les sens qu'il a mentionnés, il n'y a pas le sens de prisonnier, mais il y a plutôt donc le sens d'ouvrier ou d'employé. C'est pour ça qu'on corrigera ici et on dira que cela est indiqué dans le récit de l'ouvrier ou de l'employé, au père duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Pour ce qui est de la servante et du bétail, ils te seront rendus » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le passage que nous venons d'entendre, Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala, a exposé le fait que le principe contenu dans ce hadith, à savoir le fait que quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie le verra rejeté, concerne aussi bien le domaine de l'adoration que le domaine des relations et des contrats. Donc ce n'est pas limité à l'adoration. Et ce n'est pas limité non plus à tout ce qui touche aux relations humaines. Si on peut exprimer cela de la sorte. Quand on parle donc de relations humaines, na'am, ou là de mu'amalat, on vise par là ce qui a trait, par exemple, au mariage, au divorce, au commerce, na'am, et ainsi de suite. Parce que la religion, elle est composée de croyances, d'adoration, na'am, et également de relations, ou de comportements. manière de se comporter avec autrui, ce qui est un domaine qui est vaste. Donc ici, le Shir, il explique que ce principe contenu dans le hadith, à savoir le fait que quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie le verra rejeté, touche le domaine des adorations, comme il touche également le domaine des relations humaines. Il a donné des exemples. Concernant les adorations, il a fait mention des ablutions, du lavage suite à une impureté majeure. Il a fait mention également de l'accomplissement de la prière ou autre. Si ces actes sont accomplis non conformément à la législation, ils seront rejetés à celui qui les a accomplis et ils ne seront pas considérés. Et ensuite, il a donné un exemple de ce qui touche au domaine des relations en disant de la même manière que le bien acquis par un acte de vente illégal doit être rendu à son propriétaire et n'est pas la propriété de l'acheteur. Et il a cité comme preuve à cela le récit de l'ouvrier ou de l'employé au père duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Pour ce qui est de la servante et du bétail, ils te seront rendus. » Ce hadith, il a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira et Zayd ibn Khalid al-Juhani, qu'Allah les agrée, qui rapporte qu'un jour un bédouin est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accompagné d'une personne et lui a dit « Ô messager d'Allah, tranche entre nous deux par ce que contient par le jugement du livre d'Allah. » La personne qui était à côté de lui, et dans certaines versions nous trouvons que c'était quelqu'un qui était plus instruit que le premier, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a bien parlé, tranche parmi nous avec le jugement du livre d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais certes trancher parmi vous avec le livre d'Allah. Le bédouin s'est alors prononcé et il a dit, mon fils était employé de cet homme et il a forniqué avec sa femme. Ils m'ont alors dit que mon fils encourait la lapidation. Et j'ai donc compensé cela en offrant 100 brebis et une esclave. Puis j'ai questionné les gens de science et ils m'ont dit qu'en vérité, il n'incombait à mon fils que de recevoir 100 coups de fouet et d'être exilé pendant un an. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, je vais certes trancher parmi vous avec le jugement que contient le livre d'Allah. Et parmi ce qu'il lui a dit par la suite, il lui a dit qu'effectivement, la servante et le bétail te seront rendus et qu'il incombe à ton fils de recevoir 100 coups de fouet et d'être exilé pendant un an. Puis il a fait mention de la sentence qu'encourait la femme avec laquelle il avait forniqué. On retrouve dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré le premier jugement qui avait été donné, à savoir le fait que pour éviter la lapidation, il incombait au père de compenser par le don d'une servante et de 100 brebis. Étant donné qu'il lui a dit, pour ce qui est de la servante et du bétail, ils te seront rendus. Et c'est là donc une preuve qui appuie le fait que dans tout ce qui a trait au contrat ou aux différents accords. D'ailleurs, ce hadith il a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, dans le livre des accords. Ou de tout ce qui a trait aux relations humaines, si la chose n'est pas conforme à la religion, alors elle n'a pas de valeur et elle n'est pas considérée. C'est pour cela que la servante et le bétail ont été rendus à son propriétaire. Et qu'ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délivré le jugement qui est en conformité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, le Cheikh Abd al-Muhsin ici nous explique que ce principe que nous trouvons dans ce hadith touche à la fois le domaine des actes d'adoration, comme il touche celui des relations humaines, des contrats et des différents accords qui peuvent être contractés entre les gens.
Le troisième enseignement, le hadith indique que quiconque apporte une innovation qui n'a aucun fondement dans la législation, cette innovation sera rejetée et celui qui la commet mérite le châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Médine, celui qui y commet une innovation ou accorde refuge à un innovateur verra s'abattre sur lui la colère d'Allah, des anges et de tous les gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Naam, ici, a dit, verra s'abattre sur lui la colère d'Allah. Il serait plus opportun de dire la malédiction. Naam, étant donné que la colère correspond plus au terme ghadab. Naam, alors que c'est le terme la'n qui est utilisé, donc on dira plutôt la malédiction. Et cela donc met en évidence le châtiment qu'encourt celui qui apporte une innovation qui n'a aucun fondement dans la législation. Et c'est comme si le Shir ici avait voulu mettre l'accent sur le fait qu'en plus du fait que celui qui ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie le verra rejeté, eh bien en plus de cela, il encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui ajoute à la gravité du fait d'apporter dans la religion ce qui n'en fait pas partie.
Quatrième enseignement, la deuxième formulation rapportée par Muslim est plus générale que celle rapportée conjointement dans les deux sahih.
Dans les deux sahih, c'est-à-dire dans les deux recueils authentiques, celui d'Al-Bukhari et celui de Muslim, puisque nous avons dit que ce hadith il a été rapporté, recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique respectif. Et qu'ensuite, il y a une formulation particulière qui a été rapportée ou recueillie uniquement par Muslim. Naam.
Car elle englobe toute personne commettant une innovation. Autant celui qui en est à l'origine que celui qui la met en pratique par la suite.
Naam. Et c'est comme si An-Nawawi rahimahullah avait voulu couper court à toute excuse qui pourrait être avancée par celui qui viendrait à innover dans la religion, en y ajoutant ce qui n'en fait pas partie. Et qui pourrait être mené à dire, lorsqu'il est blâmé, ou conseillé, de dire, en fait, il n'a rien ajouté de lui-même, il n'a rien instauré. Mais il n'a fait que vrai et accomplir un acte qui avait été instauré ou innové par quelqu'un d'autre que lui, au préalable. La deuxième formulation qui a été recueilli uniquement par l'imam Muslim dans son recueil authentique, coupe court à cette excuse. Car en vérité, aussi bien celui qui instaure cette innovation-là dans la religion, que celui qui par la suite va venir accomplir cette innovation-là, est concerné par cette sentence, à savoir le fait que son œuvre sera rejetée. Et il faut savoir que les innovateurs ont recours à beaucoup d'excuses qui sont toutes plus fallacieuses les unes que les autres, et toutes plus nulles et non avenues les unes que les autres. Parmi ces excuses-là, celles que nous venons d'entendre, et également le fait que lorsqu'une personne innove dans la religion, elle dise « je n'ai voulu par là que le bien » ou « je l'ai fait sincèrement pour Allah » comme nous l'entendons malheureusement trop souvent. Ibn Mas'ud, radiyallahu an, avait répliqué d'une manière éloquente à ceux qui avaient tenu de tels propos, alors qu'ils venaient d'innover dans la religion, et qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu an, qui compte parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les avait réprimandés fermement, un d'entre eux a dit, Ya Aba Abdurrahman, oh Aba Abdurrahman, c'est-à-dire c'est la kunya, en quelque sorte le surnom, d'Ibn Mas'ud. Il lui a dit, nous n'avons voulu par là que le bien. Ibn Mas'ud leur a répondu d'une manière très éloquente, et combien de gens souhaitent accomplir le bien, mais ne l'atteignent jamais. Et les excuses sont également nombreuses. Parmi ce que peuvent avancer les innovateurs afin de légitimer leurs innovations dans la religion, afin de légitimer le fait de rejeter la vérité. À titre d'exemple, tu présentes à l'un d'entre eux, tu exposes à l'un d'entre eux la vérité de manière claire et explicite. En appuyant tes propos par des preuves du Coran et de la Sunna et des récits rapportés des plus prédécesseurs de cette communauté, et il te répond, la yuqni'uni, ça ne me convainc pas. Et sous prétexte qu'il n'est pas convaincu, il rejette la vérité. C'est comme si la vérité, en vérité, elle était dépendante de la conviction de chacun. S'il est convaincu, la vérité est vérité, et s'il n'est pas convaincu, alors la vérité ne l'est plus. Alors qu'en vérité, la vérité, si on peut dire ça comme ça, n'est liée à personne. Na'am, la vérité, c'est Allah a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit, sans avoir divergé à ce sujet. Également, dans le même ordre d'idées, le fait de dire, en réponse à l'exposé explicite de la vérité, cela ne m'incombe pas. La yalzamuni. Ce sont des excuses que nous trouvons beaucoup à notre époque. Il ne m'incombe pas de suivre ce que tu es en train de dire. Et nous ne te demandons pas de suivre ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est nous qui le disons. Mais nous demandons plutôt de suivre la vérité, étant donné que la vérité vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, il faut savoir que les innovateurs, ont dans leur poche beaucoup d'excuses, toutes plus nulles les unes que les autres, et qu'il ne faut pas être dupé par ce genre d'excuses fallacieuses. Barakallahu fikum.
Cinquième enseignement, en langue arabe, lorsque le nom, masdar, est cité dans un contexte général, c'est que le sens voulu est celui du participe passé, ismun maf'oul, comme c'est également le cas pour les termes khalq, makhlouq, ou encore nasr, mansour. Le sens de sa parole, son ajout sera rejeté, signifie qu'il est nul et non considéré.
Na'an. Ce cinquième enseignement, au vu de sa traduction, je ne vois pas comment on pourrait réellement le comprendre. Bien qu'il faille accorder au traducteur que ce n'est pas une tâche évidente, étant donné que cela est lié à un sujet d'ordre linguistique, et qui est donc lié à la langue arabe. On pourrait discuter donc la traduction de masdar, en disant qu'en vérité un masdar c'est plus un substantif qu'un nom, puisque le nom, ça correspond plutôt en arabe à ism. Et on pourrait également discuter le fait de traduire ism maf'oul par participe passé. Car ism maf'oul, avant tout, ça signifie le nom qui désigne celui qui subit l'action. Et peut-être qu'on va laisser de côté cette notion purement linguistique et se contenter ici de la parole du traducteur à la fin lorsqu'il a dit « Le sens de sa parole, son ajout sera rejeté, signifie qu'il est nul et non considéré, et cela nous suffira pour l'instant. » Quant à ceux qui veulent aborder cette notion linguistique, je les invite à perfectionner leur niveau de langue arabe et à revenir donc au propos du Cheikh Abdel Mohsin dans le livre Fath al-Qawi al-Matin fi sharh al-Arba'in wa tatimmat al-Khamsin lin-Nawawi wa Ibn Rajab rahimahum Allah.
Sixième enseignement, n'est pas concerné par ce hadith celui qui compte parmi les choses utiles à la ce qui compte parmi les choses utiles à la préservation de la religion ou qui permet de la comprendre et de la connaître et la connaître comme le fait d'avoir réuni le Coran dans des recueils, d'avoir codifié les sciences de la langue et de la grammaire et d'autres choses encore.
Naam. N'est pas concerné par ce hadith ce qui compte parmi les choses utiles. Il aurait été préférable, au lieu de choses, de dire moyen. N'est pas concerné par ce hadith ce qui compte parmi les moyens utiles à la préservation de la religion, ou qui permet de la comprendre et la connaître, comme le fait d'avoir réuni le Coran dans des recueils, d'avoir codifié les sciences de la langue et de la grammaire, et d'autres choses encore, c'est-à-dire parmi les choses qui vont venir s'apparenter à ce que vient de mentionner ici le Cheikh Abdel Mohsin, Hafidhahullah. C'est là un point très important que le Cheikh a abordé et qu'il convient d'assimiler correctement et qui nous mène à définir ce qu'est l'innovation quand on parle de bid'a, puisque ce hadith, donc, il est fortement lié au sujet de la bid'a. Donc, ce point que vient d'aborder le Cheikh dans ce sixième enseignement nous mène à définir l'innovation, puis ce qui est voulu par les moyens dont la valeur dépend de l'intérêt. C'est ce qu'on appelle en arabe al-masalih al-mursala. Al-masalih al-mursala. Que l'on peut traduire de manière approximative par les moyens dont la valeur dépend de l'intérêt. Et ensuite, on va aborder la distinction qu'il y a à faire entre ces deux notions. La notion d'innovation religieuse, al-bid'a, et la notion de moyen dont la valeur dépend de l'intérêt. L'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, a défini l'innovation dans son livre Al-I'tisam de la manière suivante. Il a dit l'innovation, donc bien sûr on parle ici de l'innovation dans la religion, car l'innovation dans son sens linguistique, vous savez ce que ça signifie. Dans son sens religieux, c'est donc une voie inventée par laquelle la charia est concurrencée et par laquelle celui qui l'emprunte cherche à dépasser les limites dans l'adoration d'Allah. Je répète, l'imam Shatibi a défini l'innovation dans son livre Al-I'tisam comme étant une voie inventée par laquelle la charia est concurrencée et par laquelle celui qui l'emprunte, c'est-à-dire celui qui emprunte cette voie innovée, cherche à dépasser les limites dans l'adoration d'Allah. Quant aux moyens dont la valeur dépend de l'intérêt, c'est la deuxième notion que nous avons dit que nous allions définir. Quant aux moyens dont la valeur dépend de l'intérêt, ils ne sont pas liés à la religion en soi, mais plutôt au moyen de préserver les cinq nécessités que la charia cherche à préserver. Donc ici, on est en train d'aborder ce qu'on appelle al-masalih al-mursala, c'est-à-dire les moyens dont la valeur dépend de l'intérêt recherché. Ils ne sont pas liés à la religion en soi, mais plutôt au moyen de préserver les cinq nécessités que la charia cherche à préserver. La question se pose, quelles sont ces cinq nécessités? La première de ces nécessités, c'est la religion. Donc la charia, la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a pour finalité de préserver l'intérêt de la religion. La deuxième des nécessités, c'est l'âme. La troisième des nécessités correspond au bien. C'est-à-dire les biens matériels. La quatrième nécessité correspond à la lignée. C'est-à-dire pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a strictement interdit la fornication, les relations hors mariage, étant donné que la fornication remet en question la préservation de la lignée. Et la cinquième des nécessités, c'est la raison. Donc je répète, les moyens dont la valeur dépend de l'intérêt recherché ne sont pas liés à la religion en soi, donc contrairement à l'innovation, comme nous allons le voir plus en détail, bi'idhnillah. Mais ils sont plutôt liés aux moyens de préserver les cinq nécessités que la charia cherche à préserver, à savoir la religion, l'âme, les biens matériels, la lignée et la raison. À partir de là, on arrive au troisième point que nous avons annoncé, à savoir le fait de différencier entre l'innovation dans la religion et le fait d'avoir recours aux moyens dont la valeur dépend de l'intérêt recherché. On différencie et on distingue ces deux notions par le biais de deux points. Premièrement, le fait que l'innovation est liée à la religion et à un but à atteindre. L'innovation, elle est liée directement à la religion et à un but à atteindre. Tandis que ce que l'on appelle al-masalih al-mursala, c'est-à-dire les moyens dont la valeur dépend de l'intérêt recherché, ils sont liés à ce qui permet d'atteindre ce but. À ce qui permet d'atteindre le but. Donc l'innovation, elle est directement liée à la religion. Alors que les moyens dont la valeur dépend de l'intérêt recherché ne sont pas directement liés à la religion. L'innovation est liée à un but à atteindre, alors que les moyens dont la valeur dépend de l'intérêt, ils sont liés justement, par définition, aux moyens qui permettent d'atteindre le but. Et le deuxième point qui nous permet de distinguer entre ces deux notions, c'est que ce qui justifie, dans l'esprit de l'innovateur bien sûr, ce qui justifie l'innovation était en réalité présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ce qui justifie le recours aux moyens dont la valeur dépend de l'intérêt n'était pas présent à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, pour illustrer ce que nous venons de dire, il faut que tu saches que tout acte dont ce qui le justifie aurait été présent à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc ce qui aurait pu l'empêcher n'était pas présent. Et que malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cet acte-là, sache que cet acte-là fait partie de l'innovation dans la religion. Sache que cet acte-là fait partie de l'innovation dans la religion. C'est d'ailleurs pour cela que les ulama disent, concernant les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les agrée, n'ont pas accompli à leur époque, alors que ce qui justifiait cet acte était présent et que ce qui pouvait venir l'empêcher était absent, ils disent si jamais cet acte-là avait été un bien, ils nous y auraient devancé. Et du fait qu'ils ne nous y ont pas devancé, eh bien, on considère cela justement comme étant une innovation. Prends comme exemple le fait de lire le Coran en groupe d'une seule voix. Avec la prétention que cela permet de se motiver afin de lire le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cet argument-là qui viendrait donc justifier le fait de se réunir et de lire d'une seule voix le Coran était présent à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, et d'autre part, rien n'empêchait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de le faire. Du fait qu'ils ne l'ont pas fait, ça nous prouve que le fait d'accomplir cet acte-là est une innovation dans la religion. Un exemple maintenant qui vient illustrer les moyens dont le recours, dont la valeur, excusez-moi, dépend de l'intérêt recherché. C'est l'exemple que le Cheikh Abd al-Muhsin a donné lorsqu'il a dit comme le fait d'avoir réuni le Coran dans des recueils. Cela fait partie des moyens légiférés. Étant donné que la valeur de ce moyen-là auquel les ulama ont eu recours présente un intérêt, à savoir la préservation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour cela que les ulama sont unanimes quant à la légitimité d'avoir réuni après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran dans des recueils. Cette initiative-là a été entreprise du temps de Abu Bakr radiyallahu anhu et a été concrétisée et continuée par la suite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui pouvait justifier cela n'était pas présent. Nous pouvons même dire que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intérêt consistait à ne pas réunir le Coran dans des recueils. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de faire écrire le Coran et d'inciter ses compagnons à le mémoriser. Étant donné que de son vivant, l'époque était une époque de révélation. Et que le fait de réunir le Coran dans des recueils aurait pu mener au fait de mélanger certains versets à d'autres. Donc l'intérêt à l'époque ne résidait pas dans le fait de réunir le Coran dans des recueils. Mais l'intérêt consistait plutôt ou résidait plutôt dans le fait de se contenter de l'écrire. Par la suite, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, la révélation a été interrompue. Et donc ce qui était à craindre au préalable n'était plus à craindre par la suite. Et l'intérêt était devenu le fait de réunir ce qui avait été écrit du Coran et mémorisé dans des recueils afin que le Coran ne se perde pas. Le fait d'avoir donc réuni le Coran dans des recueils ne fait pas partie des innovations religieuses, mais fait plutôt partie des moyens légiférés, étant donné que ce moyen-là, auquel les ulama, parmi les compagnons, radiallahu anhum, ont eu recours, fait partie des moyens dont la valeur dépend de l'intérêt recherché. Et étant donné que l'intérêt recherché était quelque chose d'obligatoire, alors ce moyen-là était également quelque chose d'obligatoire. Il n'est donc pas correct d'argumenter par ce que les compagnons radiallahu anhum ont fait lorsqu'ils ont réuni le Coran dans des recueils afin de légitimer le fait d'innover dans la religion, étant donné que ce sont deux choses bien distinctes. Et j'espère que ce point-là a été bien assimilé, et je vous invite à approfondir vos connaissances en lisant éventuellement d'autres commentaires dans lesquels cette notion aura été plus approfondie, afin de bien assimiler ce point-là. Barakallahu fikum.
Septième enseignement, le hadith indique dans son sens général le rejet de tout acte contraire à la législation, même si l'objectif de celui qui le pratique est bon. Cela apparaît dans le récit du compagnon qui a sacrifié une bête avant l'accomplissement de la prière du Eid.
Alhamdulillah, le traducteur jazahullah khaira, il a laissé le terme Eid tel quel. Et c'est là une bonne chose, à mon humble avis. Et je ne vois pas qu'il est opportun de traduire le terme Eid par fête, étant donné que le terme Eid, il signifie quelque chose qui est mené à se répéter dans le temps. Na'am. Et que le terme fête en français ne revêt pas ce sens-là, ne contient pas ce sens-là. Et ça peut mener à une certaine confusion dans la conception du sens du terme Eid. Donc il est plus opportun, comme l'a fait le traducteur jazahullahu khayra, de laisser le terme Eid tel quel comme il l'a fait ici, ou d'utiliser le terme que l'on trouve dans le dictionnaire, à savoir celui qui est composé de la lettre A, du I avec les tréma, na'am, et du D.
Cela apparaît dans le récit du compagnon qui a sacrifié une bête avant l'accomplissement de la prière du Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: la bête que tu as sacrifiée n'est comptée que comme une viande et non comme le sacrifice du Eid. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Donc vous retenez ça pour le Eid qui approche, pour ceux qui vont sacrifier. Le sacrifice, c'est après la prière. Avant la prière, c'est juste de la viande que tu vas manger. Après la prière, en plus d'être de la viande que tu vas consommer, c'est un sacrifice compté comme étant le sacrifice du Eid. Naam.
Huitième enseignement.
Donc même si l'objectif est bon. Parce qu'on a dit que il y a deux conditions pour que l'œuvre soit acceptée. Naam. Le fait que l'intention soit bonne. Et que ce soit l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà qui soit visée. Et le fait que l'acte soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ces deux conditions doivent impérativement être réunies. Et le simple fait que l'objectif de celui qui pratique l'acte soit bon ne suffit pas, comme nous l'avons vu justement à travers les propos d'Ibn Mas'ud lorsqu'il a répliqué à ceux qui avaient innové à son époque et qui avaient argumenté en disant qu'ils ne recherchaient par là que le bien. Ibn Mas'ud, comme vous l'avez entendu, leur a répondu: et combien de gens souhaitent faire le bien, mais ne l'atteignent jamais.
Huitième enseignement, Le texte du hadith indique que tout acte qui n'est pas basé sur un ordre du législateur est rejeté.
Quand on dit législateur, ça vise Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam.
Et le sens implicite est donc que tout acte basé sur l'ordre du législateur n'est pas rejeté. Le sens en est que quiconque agit conformément aux règles de la législation, son acte est accepté et tout ce qui en sort est rejeté.
Na'am.
Les enseignements du hadith sont donc, premièrement, l'interdiction de l'innovation dans la religion. Deuxièmement, l'acte basé sur une innovation est rejeté. Troisièmement, la règle juridique qui est l'interdiction implique la corruption.
Na'am. La règle juridique ou tout simplement la règle religieuse qui est l'interdiction implique la corruption. C'est-à-dire l'interdiction d'une chose implique que celui qui va l'accomplir verra son acte considéré comme étant corrompu, non valide. Na'am.
Quatrièmement, l'œuvre pieuse accomplie d'une manière non légiférée, comme le fait d'accomplir sans raison une prière surérogatoire lors d'un moment d'interdiction, de jeûner le jour du Eid ou d'autres choses semblables, cette œuvre sera nulle et non considérée.
Non, mais on avait déjà attiré l'attention vers le fait que le terme surérogatoire n'est pas approprié. Et je vous invite donc à retourner aux explications fournies. Et on dira plutôt donc une prière volontaire. Une prière volontaire afin d'éviter tout sens péjoratif qui ne conviendrait pas à la place de cette éminente adoration qu'est la prière.
Cinquièmement, un jugement provenant de qui que ce soit ne peut influer sur la nature de l'acte, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fait pas partie de notre religion.
Na'am, et on retrouve justement ce que vient d'affirmer le shir Abdel Mohsin hafidhahullahu ta'ala dans le hadith que vous avez entendu qui a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim d'après Zayd ibn Khalid Al-Juhani et Abu Huraira qu'Allah les agrée, concernant le récit de l'employé, de l'ouvrier qui avait forniqué avec l'épouse de son employeur. Na'am. On retrouve ici que le fait que certaines personnes aient porté un jugement qui n'était pas conforme, na'am, n'a pas influé sur la nature de l'acte. Na'am. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans le hadith de Aïcha qu'il ne fait pas partie de notre religion, le verra rejeté.
Et sixièmement, une vente illégale est caduque, et le propriétaire initial est en droit de se voir restituer son bien, comme il apparaît dans le hadith du prisonnier ou de l'ouvrier.
Na'am. Alors ici, traducteur est, c'est resté figé sur le domaine de la vente, du commerce, puisqu'il a dit une vente illégale est caduque. Alors qu'en vérité, c'est plus large que ça. Le terme utilisé, c'est « solh ». Ça vise donc les accords. Donc on dira plutôt un accord illégal et caduque. Et ça englobe aussi bien les ventes que les autres types d'accords. Puis il a dit, et le propriétaire initial, na'am, en restant donc dans la lignée de ce qu'il avait entamé au préalable, en disant une vente illégale et caduque. Alors qu'en vérité, c'est un accord illégal et caduque. Et au lieu de dire le propriétaire initial, il serait plus opportun de dire et celui à qui le droit revient est en droit de se voir restituer son bien, comme il apparaît dans le hadith donc de l'ouvrier au lieu du prisonnier, de l'ouvrier ou de l'employé. C'est ainsi donc que s'achève la lecture du commentaire de ce cinquième hadith. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين